ce temps ce matin, souligner cette grande et précieuse vérité, ce fait historique, biblique, éternel, l'incarnation de notre glorieux Dieu et Sauveur. Et on s'en va dans le titre au chapitre 2. Vraiment, je veux m'arrêter sur une expression dans le passage. On va lire les versets 11 à 14. Mais c'était dans les versets ce matin qu'on a lu avec la feuille là, détachée que vous avez eue. Et c'est dès le début, c'est au verset 11. Mais tant qu'à ça, on va lire jusqu'au verset 14. Mais c'est tellement beau. Titre 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est ça qu'on célèbre. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation, pas fini les manifestations, elle s'est manifestée il y a 2000 ans, mais ça revient encore, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Comme on te remercie, Seigneur, ce matin d'avoir un temps comme ça où est-ce qu'on souligne ta venue dans ce monde. Merci que c'est tellement riche, c'est tellement beau, comme vérité, comme fait, Seigneur. On médite là-dessus, on en redemande, Seigneur. Et ce matin, on prie que tu nous ouvres les yeux sur la grandeur de Christ, notre paix par l'incarnation, le fait que Dieu est venu. Dieu s'est dépouillé de toute cette gloire, de la félicité éternelle pour venir dans ce monde déchu, aller jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Merci, Seigneur, pour la mission de Christ, merveilleuse, annoncée par les prophètes, accomplie. Et Seigneur, ouvre nos yeux aujourd'hui et Seigneur, ouvre les cœurs de chacun. Et si quelqu'un ne te connaît pas encore comme son sauveur, que tu ne t'es pas encore manifesté à son cœur, on te prie qu'aujourd'hui, ça soit ce jour merveilleux de son salut, de la nouvelle naissance. Seigneur, on s'en remet à toi. On est reconnaissant et on est confiant que tu fais ton œuvre, tu es à l'œuvre. Seigneur, continue là pour ta gloire. On te prie au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est Christ, notre paix par l'incarnation, le titre du message ce matin. Et la grâce de Dieu a été manifestée. Il faut comprendre qu'ici, quand ça parle de la grâce, c'est pas juste une vérité, savez-vous? On ne devrait jamais réduire la grâce de Dieu juste à une vérité écrite dans un livre. La grâce de Dieu, c'est Jésus qui a été fait chair. Qu'est-ce que ça nous dit, hein? Ça dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ, c'est la manifestation pleine et complète de la grâce de Dieu aux hommes. C'est plus que juste une vérité froide, c'est une personne proche, chaleureuse, Christ, notre paix par l'incarnation. Et c'est ça toute la beauté de ce qu'on célèbre avec Noël, n'est-ce pas que la Bible nous dit que lui, Christ, il est notre paix. Peut-être qu'il y en a qui l'ont appris. C'était Éphésiens 2:14, le verset qu'on a sur le calendrier, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était lui qui était sur le calendrier. En tout cas, je sais que c'est dans les versets qui étaient suggérés pour apprendre. Il est notre paix, c'est-à-dire, c'est lui qui a mis fin à la séparation, à l'inimitié. Et comment il a fait ça? Ça nous dit dans le verset suivant, dans Éphésiens 2:15, « Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Il a pris un corps, il s'est incarné, et il a accepté d'être séparé de Dieu afin de nous réconcilier avec Dieu. Et il nous a aussi réconciliés les uns envers les autres, on l'a vu, hein? Ce matin dans Tite, c'était un des versets aussi que nous haïssant et étant dignes d'être haïs, mais Dieu a amené non seulement la paix entre nous et lui, mais aussi entre nous autres. Donc, Jésus-Christ, c'est la vraie solution pour la paix dans le monde. C'est ce que les anges ont chanté. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est le chant majestueux du cœur des anges devant le berceau. Et Ésaïe de prophétiser qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant, ça c'est l'incarnation, un fils c'est l'éternité de Christ. On voit vraiment, juste dans cette prophétie-là, on voit les deux aspects du fait que Christ est Dieu fait homme. Dieu et homme, les deux. Hein? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Voyez-vous que tout ce qui... C'est incroyable comment il y a des prophéties, des déclarations sur l'incarnation qui nous parlent de paix. Parce que Christ est notre paix, ayant pris un corps, étant venu à nous, l'ultime accomplissement de la réconciliation, de la restauration de sa paix, là où il y avait de la guerre, de l'inimitié. Et oui, Christ a pris un corps, mais savez-vous quoi? Aussi, nous sommes son corps. Nous sommes ses agents de paix dans un monde hostile. Et c'est ce que j'aimerais qu'on considère ensemble ce matin, simplement avec un message, où est-ce qu'on va considérer Christ notre paix. Par l'incarnation, on va voir simplement deux vérités. Un message de deux points bien simples ce matin. Deux vérités de paix concernant Christ notre paix par l'incarnation. On est dans le titre, mais vous n'êtes pas obligé de tourner là, mais d'abord, Christ est notre paix parce qu'il est le dernier Adam. Savez-vous que Christ est le dernier Adam? C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, c'est le premier de toute l'humanité, devint une âme vivante. Le dernier Adam, ça c'est Christ, est devenu un esprit vivifiant. C'est une expression théologique, peut-être que ici j'en prends certaines cours. Ouais, c'est quoi ça veut dire ça, dernier Adam, puis... Je suis content que vous le demandiez parce qu'on va répondre ensemble à la question. C'est une belle expression riche qui nous parle de la mort de Christ, qui met fin à la malédiction de la chute. Le premier Adam est venu, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui en est résulté? La chute, la mort, la décrépitude. Mais Christ est le dernier Adam qui met fin à la malédiction de la chute parce qu'il est né pour mourir, pour donner sa vie. En fait, le dernier Adam, ça réfère à notre identité dans notre union, d'abord avec Adam. Vous savez qu'en Adam, là, on est tous en Adam, on est dans la mort. C'est pour ça que ça dit que avant de connaître Dieu, nous étions morts, quoique vivants. Ça dit que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Et vous connaissez aussi probablement Romains 5, 12. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Ça nous parle d'Adam. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça, c'est la vérité de notre nature adamique. Mais Jésus-Christ, le dernier Adam, nous a rendu la vie par sa mort. N'est-ce pas quand même un peu paradoxal? Il est mort pour donner la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes morts avec lui. Et quand on est un enfant de Dieu, c'est ça. Non seulement Christ est mort pour nous, mais aussi, on est mort avec lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a dégagés de notre appartenance à Adam. On est mort à cette ancienne identité, à cette chute. C'est un tome fini de notre vie. Ça, c'est tellement précieux, c'est tellement important que Dieu le grave sur nos cœurs. Puisqu'on est mort avec Christ, on n'est plus en Adam. Maintenant, on est en Jésus-Christ. Et il n'y avait que la mort qui pouvait... à nous séparer comme ça de notre union avec Adam. Ça prenait quelque chose de radical. Je veux dire, on ne pouvait pas par nos bonnes œuvres, on ne pouvait pas, avec la bonne religion, se séparer de notre nature même. Pensez-y, on a beau donner de l'argent, on a beau faire plein d'œuvres, notre nature reste notre nature, ce que nous sommes en Adam. Il fallait qu'on meure avec Christ, c'était la seule manière d'être délivré. Aucune réforme humaine, aucun plan de restauration par la chair ne peut briser le lien qui nous unit à la malédiction d'Adam. Ça prenait notre mort avec le dernier Adam, dernier, fini. Fini pour l'un, puis on va voir bientôt commencement pour l'autre. Mais d'abord, c'est ça. La mort avec le dernier Adam, Jésus-Christ, nous dégage de la puissance de la mort et du péché. Écoutez à ce sujet, Romains 7. Ça nous fait un peu reviser des choses qu'on a vues, mais c'est tellement des vérités précieuses, on ne les voit jamais trop. De même, mes frères, ça c'est Romains 7, 4 à 6. Vous aussi, vous avez été par le corps de Christ. Voyez-vous l'incarnation, comment c'est important. Vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, ah c'est beau ça, les « mais maintenant » de la Bible, mais Dieu, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non selon la lettre qui a vieilli. Ça veut dire vraiment là, arrêtez d'essayer de mourir, arrêtez d'essayer de vous mortifier. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà mort. C'est comme si on essaye de mourir, on essaye de faire ce que, premièrement, ce que Dieu seul était capable de faire. Je vous dis, de façon naturelle, on est en Adam. Et on a beau essayer aussi fort qu'on veut, puis qu'on essaye pour être en Jésus-Christ, ce n'est que par la grâce de Dieu, ce n'est que par son œuvre. On ne peut pas faire ça nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible nous parle de ces faits comme quelque chose qu'on doit savoir, qu'on doit connaître, comme quelque chose de réel et d'expérimental. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui, avec le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ces vérités-là sont tellement importantes. C'est des choses qu'on doit connaître. Plus que juste les connaître dans notre tête, on doit les connaître dans notre cœur, on doit faut que l'Esprit de Dieu les grave sur notre cœur. Pour ça que je vous encourage, puis je continue, je réitère cette invitation, cet encouragement, lisez et relisez, méditez ces vérités de Romains 6. Ma femme a commandé un commentaire de Martin Lloyd-Jones sur Romains 6. Quelqu'un dans son église, je viens d'apprendre ça, quelqu'un de son église a dit, « Monsieur Jones, c'est lui qui est Metropolitan Tabernacle à Londres, là, c'est, je pense c'est un des successeurs de Spurgeon. Une petite église d'une couple de milliers de personnes à Londres, là, une église qui a quand même de l'histoire. » Mais Monsieur Lloyd Jones, quelqu'un est allé voir et il dit, « Allez-vous prêcher dans Romains, tu sais, de façon systématique? » Il dit, « Je ne vais pas prêcher dans Romains tant que je ne vais pas comprendre Romains 6. » C'est un homme de Dieu là, qui prêchait la parole, là. Puis c'est pour dire ces choses-là, c'est spirituellement qu'on les discerne. Puis c'est pour ça, il faut qu'on demande à Dieu, Dieu, débloque-le, ouvre avec la clé du Saint-Esprit, de l'illumination du Saint-Esprit, ces vérités précieuses à mon cœur. Quand ça arrive, on n'est plus pareil, on ne voit plus le monde pareil, il n'y a plus rien de pareil. Là, je parle pour un enfant de Dieu même. Là. Pas pour quelqu'un là, pour venir au salut, c'est quelqu'un qui est sauvé. Donc, puis j'écoutais là-dessus, mais j'écoutais, je le lisais, là, mais je l'écoutais, on peut dire, d'une façon, à Watchman Nee qui disait, des fois on va vite, il faut que je reconnaisse que je suis mort au péché puis vivant pour Dieu, mais attends un peu, prends le temps de connaître ces choses. Dieu a dit, il faut connaître ces choses, ensuite on les regarde comme un fait, puis ensuite on vit à la lumière de ça, mais ça commence à s'imbiber sur la réalité de ces choses. Ne savez-vous pas, ignorez-vous donc, c'est des choses qu'on doit savoir, puis ensuite, on se regarde à la lumière de ça, parce que c'est ce que ça dit, hein? Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu. C'est même je me considère, je suis mort au péché, puis vivant pour Dieu. Puis ensuite, que ça va donner, ben, je vais offrir mes corps, mes instruments, mon corps, mes membres, comme des instruments de justice à Dieu, comme étant vivant de mort que j'étais avant. Maintenant, si vous êtes ici et vous n'êtes pas encore sauvé, la seule façon de jouir de la vie de Jésus-Christ, c'est d'accepter sa mort. Vous ne pouvez pas vivre, naître de nouveau en essayant de mourir, en essayant de faire quoi que ce soit. Il faut que vous acceptiez que Christ est mort à votre place. Il faut que vous acceptiez que vous êtes en Adam et vous ne pouvez pas changer cette situation-là. Il faut que vous acceptiez que Christ est mort pour vous. Et là vient le moment de la nouvelle naissance, la vraie vie. On ne peut revivre que d'abord sans subir la mort avec Christ. C'est la première vérité. Christ est notre paix par l'incarnation parce qu'il est le dernier Adam. Mais savez-vous, dans le même passage, dans 1 Corinthiens 15, c'est intéressant parce que non seulement ça parle que Jésus est le dernier Adam, mais on apprend aussi que Jésus-Christ est le second homme. Allez, écoutez ce que ça dit dans les versets juste après, dans 1 Corinthiens 15, 46. « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Hein, comme le roi Saül versus le roi David. On voit ça des fois de façon illustrée dans la Bible. Mais ce qui est naturel vient en premier, ce qui est spirituel vient ensuite. Puis là, écoutez ce que ça dit, 1 Corinthiens 15, 47. « Le premier homme tiré de la terre est terrestre. » Ça, c'est Adam. « Le second homme est du ciel. » Ça, c'est Jésus-Christ. Christ est notre Père par l'incarnation parce qu'il est le second homme. Si la première expression, le dernier Adam, référait à la mort de Christ, cette deuxième expression, le second homme, ça nous parle de sa résurrection. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau départ, l'homme 2.0. C'est le second homme nouveau. Puis là, on va parler même, il y a des implications philosophiques à ça, vous allez voir, c'est pas quelque chose qui est totalement étranger, même à toute notre histoire, tout ça. Le nouvel homme, l'homme 2.0, renouvelé, ça c'est le début d'une nouvelle humanité en Jésus-Christ, unie à lui, dans sa vie. Oui, par sa mort, Jésus-Christ a mis fin au règne de la mort en Adam. C'est le dernier Adam qui a mis fin à ce règne de mort. Mais par sa vie, par sa résurrection, Jésus-Christ, non seulement il est la fin de la mort, mais il est le début de la vie, de la grâce en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Non seulement Dieu met fin à ce qui n'est pas bon, mais il commence ce qui est bon. Le dernier Adam met fin au règne de la mort. Le second homme met un début au règne de la vie, de la grâce. N'est-ce pas ce que ça nous dit dans Romains au chapitre 5. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ça c'est en Adam, c'est avant Jésus, c'est avant l'intervention de la grâce de Dieu. Le péché a régné par la mort. Ainsi, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce règne, et pensez-y, Jésus-Christ, le second homme, est le premier d'une nouvelle création. C'est ce que ça nous dit aussi dans Colossiens. C'est la réponse au rêve ou à l'utopie. Savez-vous, là, je disais qu'il y a des implications philosophiques et historiques. Le second homme, la nouvelle création, c'est la réponse au rêve, à l'utopie des grands dictateurs de ce monde. Savez-vous ça? Il voulait créer l'homme nouveau. Proche de nous, on sait que les régimes communistes, c'est ce qu'ils voulaient. Que ce soit Mao, que ce soit Marx, Lénine, ou même, tu sais, beaucoup plus vieux que ça, ou plus récent aussi, Hitler, n'est-ce pas ce qu'il voulait faire? Il voulait un règne de paix sur la terre. C'était leur idéal, savez-vous ça? C'était ce qu'ils voulaient. Mais ça n'a fait qu'augmenter, que répandre le règne de la mort puis de la destruction. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont morts. Quand t'es mort, tu ne peux pas donner la vie. Mais Christ, lui, est le prince de la vie. Parce qu'il est la vie. Il est le deuxième homme qui donne la vie après que le premier homme, Adam, ait donné la mort. Il est le prince de paix parce qu'il est notre paix, notre paix. Et c'est ça, le second homme, c'est celui qui est l'espérance de l'humanité. Savez-vous, l'espérance de l'humanité, tantôt on priait, c'est pas que le prix du gaz soit moins cher, c'est pas que le gouvernement devienne donc bien fin. Non, ça va pas arriver. C'est jamais arrivé, puis ça ne va pas arriver non plus. Notre espérance n'est pas ici bas de ce monde. Ça prenait vraiment l'incarnation que Dieu vienne à nous, le dernier Adam qui met fin au règne de la mort, le second homme qui commence le règne de la vraie vie, pour que vraiment les choses puissent prendre la bonne tournure, changer pour de bon. Et Dieu est venu comme ça nous amener la paix, sa paix. Ça nous dit dans Romains, au chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as cette paix avec Dieu? Est-ce que tu as été réconcilié? Est-ce que tu es justifié par la foi? Est-ce que tu as été réconcilié avec Dieu le Père par Jésus-Christ une fois pour toutes? Est-ce que le Saint-Esprit t'a montré ton état et tu as accepté l'œuvre de Christ pour toi? Considère que Jésus, c'est lui qui est ta paix par le fait qu'il est venu. Il est venu à nous, il est venu donner sa vie, il est venu donner la paix, la rédemption, la délivrance. Est-ce que tu l'as reçu pour toi-même? Ou c'est quelque chose qui est extérieur, lointain? En fait, savez-vous quoi? La réponse, on peut savoir qu'est-ce qui caractérise ma vie. Lorsque le prince de la vie vient dans la vie de quelqu'un, ça change tout. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Notre vie n'est plus caractérisée par la mort, de la séparation, de la destruction, de l'animosité, mais par la vie. Une vie de paix, de restauration, de réconciliation. Pas de façon parfaite et ultime, mais l'œuvre de Dieu est là. Est-ce que tu reconnais ça dans ta vie? Sinon, humilie-toi devant Dieu et reçois sa paix, reçois sa vie. Et tout se joue justement dans l'humilité. Lorsqu'on s'abaisse, comme Christ s'est abaissé, ça veut dire quoi? Dieu s'est humilié lui-même. Il est venu comme un rédempteur, comme celui qui restaure en s'humiliant. Lui, le Dieu éternel de toute gloire, il est venu dans un simple corps humain mortel. Mais de la même manière, pour recevoir ce Dieu, le prince de paix, il faut s'humilier face à lui pour recevoir sa paix par la foi. Je termine simplement avec deux passages que j'ai à cœur de vous partager. D'abord, écoutez bien ceci. Je l'ai lu tantôt, mais je l'ai cité, mais je commence avec le verset de 2 Corinthiens 5, 17. Et je vais aller jusqu'à la fin du chapitre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, je pense que ça s'adresse premièrement à ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu ou notre mission auprès de ceux qui ne le sont pas encore. Mais écoutez maintenant Colossiens. Au chapitre 3, à partir du verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, ça c'est nous les chrétiens, que cette paix règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ah, Seigneur, on te remercie, c'est merveilleux ta parole, parce qu'elle est vie, elle est paix. Réconciliation. C'est merveilleux, Seigneur, de plonger nos regards ce matin de différentes façons dans les vérités merveilleuses de l'incarnation. On l'a chanté, on l'a lu, on l'a prié. On te remercie, Seigneur. C'est tellement précieux. Seigneur, je te prie simplement pour cette chose ce matin. Puisses-tu, comme tu t'es manifesté en venant dans ce monde, tu t'es manifesté, toi, notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur, par le Saint-Esprit, je prie que tu continues, que tu te manifestes à chacun de nous. Seigneur, on sait que tu te manifestes des fois d'une manière qui nous dérange. Tu te manifestes au sein de la souffrance, de l'incompréhension, de la douleur. Mais Seigneur, qu'on ne se laisse pas distraire par ces choses, qu'on voit que c'est les moyens de grâce par lesquels tu as décidé, dans ta bonté, dans ta sagesse, de te manifester. Seigneur, qu'au lieu de voir la souffrance et voir l'inconfort, qu'on te voit toi. Seigneur, tout comme quand tu es venu dans ce monde, il y avait tellement de troubles, tellement de bruit, tellement de tumulte, mais tu t'es manifesté et tu es notre paix. Seigneur, dans le tumulte de la vie, dans tout ce qu'on peut vivre en ce moment, chacun de nous, c'est ma prière toute simple ce matin, manifeste-toi à nous, plein de grâce et de vérité. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.